nous avançons. Dites, j'avance. Alléluia. Et c'est notre année de la complétude, où nous marchons dans la complète manifestation de qui nous sommes en Christ. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour cette nouvelle année merveilleuse qui nous attend? Gloire à Dieu. Nous entrons toujours, continuellement, dans une gloire nouvelle. Et pourquoi? Parce que Dieu a prévu cela pour notre vie. Maintenant, j'aimerais que vous compreniez une chose. Dieu, entre 2024 et 2025, n'a pas changé. Vous voyez? Dieu n'a pas changé d'une année à une autre. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, 7. La Bible nous dit, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il ne change pas. Alléluia. Dites, Jésus-Christ ne change pas. Et c'est un message important. Alors, si on regarde le contexte de Hébreux 13, verset 8, on se rend compte que l'apôtre Paul, qui a écrit Hébreux, n'est-ce pas ? Que l'apôtre Paul, dans ce contexte spécifiquement de Hébreux 13, 8, nous parle du fait que l'enseignement de Christ ne change pas. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il dit, l'enseignement qui vous a été dispensé, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il ne change pas. Cependant, ce verset s'applique à tous les domaines de qui Christ est. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui veut dire que Jésus-Christ n'a pas changé d'opinion, n'a pas changé de manière d'opérer, n'a pas changé quoi que ce soit entre 2024 et 2025 ou entre n'importe quel moment depuis l'envoi du Saint-Esprit sur terre. Jésus-Christ n'a absolument pas changé. Et j'aimerais qu'on comprenne quelque chose, c'est nous qui changeons, c'est nous qui nous prédisposons à marcher dans une certaine révélation pour l'année. Vous voyez la différence? Jésus-Christ a un calendrier pour la terre. Mais si on regarde de manière intéressante, le calendrier actuel, l'agenda actuel d'environ 2000 ans est l'Église. Et dans ce laps de temps, Christ, le Seigneur, s'attend à une croissance de l'Église, mais ne change pas sa manière d'opérer. Il s'attend à une croissance, bien sûr, de l'Église dans son ensemble. Et il s'attend à ce que nous croissions dans tous les domaines. Amen. Et il s'attend à ce que nous croissions dans tous les domaines, continuellement, quoi qu'il arrive. Gloire à Dieu. Et cette année, c'est l'année de la complétude. Donc, bienvenue en 2025, l'année de la complétude. Dites, c'est mon année merveilleuse. C'est mon année de la complétude. Et cette année, je vais marcher dans ce que Dieu a pour moi. Et prendre les sentiers préarrangés en ma faveur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Colossiens 4, 12. Colossiens chapitre 4 et verset 12. J'aimerais qu'on voie la réalité de l'évangile. Dites, l'évangile forme une image en moi. Épaphras, qui est des vôtres, esclaves du Christ Jésus, vous salue, combattant toujours pour vous par des prières. J'aimerais vous rappeler ce passage des Écritures où Jésus dit qu'on doit continuer à prier et ne pas s'arrêter. Nous sommes censés continuer à prier d'une manière continuelle et permanente pour les autres. Nous sommes censés continuer à prier. Je ne veux plus entendre d'histoires comme quoi j'essaye de prêcher l'évangile, ça ne fonctionne pas, j'ai essayé ici, ça ne fonctionne pas. Nous sommes en 2025, c'est l'année de la complétude et nous allons compléter nos quotas d'âmes à gagner. Amen. Nous allons compléter parce que la Bible parle du quota d'âmes qui doit venir à Christ. Vous savez ça? Avant le retour d'Israël. La Bible est claire sur ça. Vous savez, il y a une erreur dans l'Église monumentale. Où vous devez comprendre que la nation d'Israël, c'est important, écoutez bien, la nation d'Israël comporte certains éléments prophétiques par rapport au retour du Christ, quelques-uns. Et l'Église a, en partie, pas l'entier de l'Église bien sûr, une partie de l'Église a mystifier la nation d'Israël pour essayer d'en tirer des enseignements constants et des fois dénués de sens. Par exemple, dès que Israël est impliqué dans une guerre exceptionnelle, immédiatement, les gens essaient d'en lire des conséquences prophétiques. Alors que si on étudie les Écritures, le temps de l'Église est un temps de paix. Dieu n'a jamais prévu aucune guerre pour le temps de l'Église. Jamais dans les Écritures. Donc toute guerre dans laquelle Israël, qui est la nation de Dieu, bien sûr l'endroit où Jésus est venu et tout cela, si Israël se trouvait en guerre, c'est un événement humain. Ok ? Vous suivez jusqu'ici ? Et donc, j'aimerais que vous compreniez ça parce que c'est important. Il n'est pas utile de mystifier la nation d'Israël. La nation d'Israël nous donne un indicateur très important, c'est sur le fait que les Juifs pourront revenir adorer à Jérusalem. Mais par exemple, il y a un verset, vous savez, il y a un verset intéressant dans, de tête, il me semble, c'est dans Ézéchiel, ou peut-être Ésaïe, qui dit « Une nation peut-elle naître en un jour ? Un pays peut-il sortir des cendres en un jour ?» Et beaucoup de gens ont interprété ce verset comme étant la création de l'État d'Israël en 1947. Alors qu'en réalité, ce verset parle de la naissance de la nation de Dieu, l'Église. Si on regarde dans le contexte, il parle de la naissance de la nation de Dieu. Vous voyez un peu l'idée ? Donc, en Jésus-Christ, vous grandissez. Dites « je grandis ». Et donc, Dieu n'a pas changé entre 2024 et 2025. Et pour ceux qui êtes là aujourd'hui, dimanche, vous allez entendre une partie de ce message parce que les gens doivent l'entendre. Amen. Mais j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Il dit « afin que vous demeuriez parfaits et bien assurés dans toute la volonté de Dieu ». Bien assuré, ça veut dire complet, littéralement. Complet. C'est votre année de la complétude. Amen. Vous allez marcher dans quatre choses merveilleuses cette année. Dites « je marche dans ces quatre choses ». Numéro 1. Vous êtes prêts ? Reconnaître et marcher dans la plénitude des bénédictions de l'Évangile. Vous savez, l'Église est un endroit très, très merveilleux. Amen. Et l'Église n'est pas un endroit de distraction. Il en est fini de cette Église où on vient, puis on danse, et on vient et on entend des messages qui nous motivent et qui nous font passer un bon moment. L'Église n'est pas un endroit comme ça. L'Église est un endroit où on vient pour être formé afin que notre vie ait une signification et que nous ne perdions pas notre temps sur terre. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. Amen. Dites Alléluia. Dites Jésus-Christ est mon Seigneur. Et dites je marche dans la réalité de Dieu. Alléluia. Vous êtes censé marcher dans cette réalité. Philémon chapitre 1 verset 6. L'Église de Jésus-Christ est un endroit de discipline. L'Église de Jésus-Christ est un endroit de formation où nous marchons et apprenons à marcher dans les plénitudes, la plénitude des bénédictions de l'Évangile. C'est ce que vous allez faire cette année comme point numéro 1. Philémon chapitre 1 verset 6. Dites « je marche dans la plénitude ». Vous voyez, l'Église est un endroit important. En sorte que ta communion dans la foi opère en reconnaissant tout le bien qui est en nous à l'égard du Christ Jésus. Vous avez vu ? Contrairement, ok, il faut comprendre quelque chose. Le terme reconnaissance, c'est littéralement le terme épignosis en grec. Épignosis. Et contrairement à gnosis qui signifie avoir une connaissance générale, épignosis sous-entend une connaissance approfondie et pointue. Je vous lis la définition. Contrairement au mot simple gnosis ou gnosis, qui désigne la connaissance générale ou intellectuelle, épignosis implique une connaissance plus complète, précise et intime. Dites intime. Dites j'ai une connaissance intime de ce que Dieu a mis à l'intérieur de moi. C'est une connaissance intime. Vous connaissez, vous reconnaissez et vous marchez dans cette réalité. Notez bien qu'il est dit reconnaître. Et ensuite, on marche. Donc, vous devez reconnaître les bonnes choses que Christ a mis à l'intérieur de votre esprit lorsque vous êtes né de nouveau. Amen. Ok, épignosis sous-entend aussi une connaissance expérientielle. Ce mot inclut souvent une dimension pratique et expérientielle. Ça veut dire qu'on a l'expérience de cela. Il ne s'agit pas seulement de savoir, mais de vivre et d'expérimenter cette connaissance. Dites, j'expérimente cette connaissance de Dieu. Levez les mains vers le Seigneur et dites, j'expérimente cette connaissance de Dieu. Connotation spirituelle. Dans les textes du Nouveau Testament, épignosis est souvent utilisé pour parler d'une connaissance spirituelle de Dieu, de sa volonté et de la vérité qui est en Christ. Cette connaissance est éclairée par les révélations divines de l'Esprit Saint. Alléluia. Dites, j'ai une révélation divine de l'Esprit Saint. Je reconnais d'une manière profonde et intime ce que Christ a mis à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que ça va impliquer pour vous? Qu'est-ce que ça peut impliquer pour un enfant de Dieu de reconnaître et de marcher dans la profondeur de la connaissance de Christ, de reconnaître et de marcher dans la plénitude des bénédictions de l'Évangile? Notez qu'il est dit des bénédictions. Alléluia. Dites, je marche dans cette réalité. Romains 15, 29. Dites, je marche dans cette réalité. Dites, tout me réussit de cette année. Dites, je suis un succès continuel. Par la puissance de miracles et de prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, de sorte que depuis Jérusalem et tout alentour, jusqu'en Illyrie, j'ai pleinement annoncé l'Évangile de Christ. Alléluia, dites, j'ai pleinement annoncé l'Évangile de Christ. Colossiens 1, 9 à 10. J'aimerais que vous reconnaissiez et que vous marchiez dans la plénitude des bénédictions de l'Évangile. Il y a une plénitude qui est disponible et ça implique de marcher d'une manière consciente, comprendre. C'est pour ça que l'Église, vous devez comprendre, n'est pas un lieu de distraction. C'est pas « j'ai envie d'aller au cinéma » ou « j'ai pas envie d'y aller ». C'est pas « j'ai envie d'aller à l'Église, j'ai pas envie d'y aller ». Non. L'Église est un camp d'entraînement pour vivre ce que Dieu a pour nous, pour marcher dans ce que Dieu a pour nous. Et c'est pour ça qu'on doit prendre cela très au sérieux. Je trouve abasourdissant à quel point les gens prennent l'Église à la légère. Et quand j'entends l'Église, j'entends pas seulement le bâtiment, j'entends aussi le corps du Christ. On a vu hier comment il faisait pour toucher les nations avec la mission de la Inner City, la fondation Christ qui le met. Et je me demande comment les gens peuvent prendre le corps de Christ tellement à la légère, surtout en Occident. C'est parce qu'il y a un confort et un accès aux richesses matérielles qui nous donnent une illusion. La Bible parle de l'illusion des richesses. C'est une illusion que les gens ont, que cette richesse les préserve. Et peut-être qu'elle les préserve encore sur cette vie, mais je peux vous garantir que devant Dieu, aucune richesse ne pourra justifier aucun acte. Jésus-Christ et notre partage, amen. Dites, je suis prospère à tout niveau. Et j'avance de tous côtés. Alléluia. Alléluia. Le nom du Seigneur Jésus est abondamment mentionné dans ma vie. Dites-le. Dites, abondamment mentionné dans ma vie. Abondamment mentionné dans ma vie. Pourquoi ? Regardez. Ça, c'est quelque chose. L'Église de Jésus-Christ, prendre soin du corps de Christ. Pourquoi est-ce que les gens sont si fainéants quand il s'agit de cela? Pourquoi est-ce que les gens... Vous savez, il y a des milliers de choses qui se battent pour avoir votre attention, pour avoir votre temps, pour avoir votre considération. Pourquoi est-ce que vous octroyez votre considération, votre temps et votre attention à des choses qui ne sont pas pour la construction du corps de Christ, pour la construction du corps de Christ. Parce que quand on parle du corps de Christ, on parle de Christ. Pourquoi est-ce qu'on passe des heures à... Vous savez, c'est le point négatif lié à la prospérité qu'on trouve dans l'Occident. C'est un point négatif. C'est que l'accès au matérialisme et l'accès aux richesses et l'accès au confort et à la modernité et à l'énergie fait que les gens sont devenus complètement fainéants. Complètement. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent passer toute une journée sans rien faire. Ils sont juste sur leur téléphone. Juste ça. Ok. Donc Jésus-Christ est en vous. Dites, je marche dans cette réalité. Colossiens. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons ouï parler, nous ne cessons pas de prier et de demander pour que vous soyez remplis de la connaissance épignosis de sa volonté. Vous devez être rempli de la connaissance de sa volonté pour marcher dans ce qu'il a pour vous. C'est inadmissible pour un enfant de Dieu de vivre en dehors de ce que Dieu a pour lui. Et bien sûr, je comprends qu'on applique cette question à la santé, on applique cette question aux finances, on applique cette question à la prospérité, on applique ces questions dans les choses humaines de base. Mais Christ n'est pas venu pour que vous puissiez vivre dans la prospérité sur terre. Il est venu pour que nous puissions manifester qui Christ est et que nous marchions dans les plénitudes de la, dans la plénitude, pardon, des bénédictions de l'Évangile. Amen. Éphésiens 4, 13. Certains comportements, j'y pense, sont inadmissibles pour un enfant de Dieu. Comment est-ce qu'on peut passer à côté de ce que Dieu a pour nous, alors qu'il est celui qui est venu, dit « je marche dans la réalité de Dieu ». Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, épignosis. Vous devez avoir une connaissance profonde et ciblée et intime du Fils de Dieu. Qui est-il pour vous? Qui est Jésus-Christ? Qui est cette personne qui a donné sa vie pour vous? Qui est cette personne qui est morte et qui ensuite est ressuscité des morts pour vous faire marcher dans une triomphale marche de gloire, pour vous faire aller dans une parade de victoire continuelle? Qui est Jésus-Christ? Avez-vous une communion personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ? C'est une question importante. Le connaissez-vous d'une manière intime et expérientielle? Est-ce que vous expérimentez cette profondeur? Est-ce que vous marchez avec la profondeur de la connaissance de qui est Christ? Est-ce que c'est suffisant de venir à l'église? Est-ce que c'est suffisant d'entendre des messages merveilleux? Alors que les gens sont morts à l'intérieur, il n'y a rien à l'intérieur. Et vous, vous avez la lumière de la vie. Dites, j'ai la lumière de la vie pour toute personne. Alléluia. Dites, je marche dans cette réalité-là. Dites, je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Vous devez marcher dans cette réalité parce que l'Esprit de Dieu a fait de vous un succès. Et j'aimerais qu'on reprenne juste Philémon 1.6, parce que c'est important, qu'on a mis avant. Philémon 1.6. La Bible est claire, vous devez reconnaître en sorte que ta communion dans la foi opère. Comment? Comment est-ce que votre communion dans la foi opère? Comment est-ce que votre foi fonctionne? En reconnaissant les bonnes choses que Christ a mis à l'intérieur de vous. Dites, il y a des bonnes choses en moi. Et vous devez reconnaître ceci. Et comment est-ce qu'on les reconnaît? Comment est-ce qu'on a une communion intime avec cette connaissance? Par la parole. La parole vous montre ce que Christ a mis à l'intérieur de vous. Et vous savez, on peut interpréter ce verset d'une manière de « Ah, j'ai tel talent, je me débrouille en musique, je me débrouille en ci, je me débrouille en ça. » Bien qu'il y a une vérité là-dedans à tirer, que Dieu a mis des talents à l'intérieur de vous, amen, dites « J'ai des talents. » Dites « J'ai des talents naturels que je peux développer. » Mais là, il parle spécifiquement de la connaissance de ce que Dieu vous a donné par héritage en Jésus-Christ. De quelle puissance on parle? De quelle gloire on parle? De quelle puissance de résurrection on parle? De quelle prospérité on parle? De quel avancement on parle? De quelle réussite on parle ici? De quelle avancée on parle? De quel progrès on parle? De qui êtes-vous en Jésus-Christ? Pourquoi est-ce qu'on peut être exposé à ce message et encore perdre tellement de temps et être tellement indiscipliné face aux choses de Dieu? Un enfant de Dieu doit prier continuellement. On le voit, on l'a vu, il priait continuellement. On l'a vu dans, n'est-ce pas, dans Colossiens 4, le premier verset, où il priait continuellement, encore et encore et encore. Vous savez, le luxe de l'excuse est passé. Il n'y a plus aucune excuse pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça vous dit quelque chose? Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Notez quelque chose. Notez quelque chose. Si une personne fournit une excuse pour un comportement ou pour quelque chose ou pour un manque, c'est que de base, il y a une condamnation. Sinon, une personne n'offrirait pas d'excuse comme défense. La Bible dit, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ok? Ce qui veut dire qu'il n'y a plus aucune excuse pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune justification à donner. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on ouvre notre bouche pour dire « j'ai pas réussi à faire ci, j'ai pas réussi à faire ça, j'ai pas réussi à parler de Jésus à telle personne, cette personne a refusé l'évangile », ça veut dire que c'est des excuses qui sont dans notre bouche qui ne sont plus tolérées pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit toujours réussir. Toujours. Dites « je réussis toujours ». Dites « je ne fais que réussir au nom de Jésus ». Et dites « cette année, je marche dans la manifestation de cette réussite ». Pourquoi? Parce que Christ a fait de vous un plus que vainqueur. Christ a fait de vous l'image, Christ a fait de vous son prix à exposer. Christ a fait de vous son trophée. Comment peut-on trouver des tels manques de discipline ? Parce que les gens ne savent pas qu'ils sont Christ. Ils ne savent pas la gloire qui a été déposée à l'intérieur d'eux. C'est pour ça qu'on peut avoir des enfants de Dieu qui passent des heures à faire des choses inutiles alors qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils sont plus que vainqueurs, qu'ils sont toujours dans la plénitude de Christ, mais ils ne marchent pas dans cette réalité. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas et leur foi ne peut pas être énergisée, leur foi ne peut pas être active et en communion tant qu'ils ne savent pas ce que Christ a déposé en eux. Dites en eux, dites en nous, dites en moi, l'Église. Un membre de l'Église. C'est pourquoi je vous pousse à être des gens de communion du Saint-Esprit. Vous pouvez avoir les meilleurs arguments que vous voulez. Si vous n'avez pas prié pour cette personne ne viendra probablement pas à Christ. Vous priez pour la personne, vous intercédez, vous vous mettez dans la position, vous savez que Dieu veut qu'elle soit sauvée. La Bible est claire, Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si on peut juste avoir ça, 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. Parce que c'est très intéressant, parce que l'apôtre Paul commence en disant « Je vous demande d'offrir des supplications. » Quand c'est la dernière fois que vous avez supplié Dieu pour quelque chose ? C'est intéressant parce que le message de foi fait qu'on oublie cet aspect-là de notre vie. On ne supplie pas Dieu pour notre héritage en Christ. Ça, il nous a été donné. Amen. L'héritage en Christ nous a été donné. Un chrétien ne peut par exemple pas demander au Seigneur la santé. Vous voyez ? Un chrétien ne peut pas demander au Seigneur la prospérité parce que ces choses lui ont déjà été données en héritage. Et la prière de foi consiste effectivement à manifester cette réalité. Presque, pas complètement, mais presque d'une manière indépendante de Dieu. C'est nous qui marchons dans la santé ou pas, vous voyez ? C'est nous qui marchons dans la plénitude de Dieu ou pas. C'est nous qui marchons sans péché ou pas. Ce n'est pas Dieu qui nous fait marcher sans péché. Seigneur, préserve-moi d'une chute. Ça, c'est une fausse prière, vous comprenez ? Seigneur, guéris-moi. Fausse prière. Seigneur, prospère-moi. Fausse prière. Seigneur, donne-moi de l'argent. Fausse prière. Parce que ces choses ont été données en héritage. Cependant, il y a des choses qui ne font pas partie de notre héritage individuel en Jésus-Christ. Et nous devons prier le Père pour qu'il oriente et qu'il agisse en conséquence. Et c'est ça l'erreur du message de foi, c'est qu'on n'a plus besoin de prier finalement. Pourquoi prier ? À part pour remercier le Seigneur. Pourquoi prier ? S'il nous a tout donné, pourquoi prier ? Regardez quelque chose. Jésus-Christ l'a lui-même dit. Jésus-Christ priait des heures et des heures tous les jours. La Bible dit qu'il allait se coucher très tard et qu'il se levait très tôt. Dans plusieurs occasions, on voit ça. La Bible dit que bien tard dans la soirée, il guérissait des malades. Et le lendemain, avant que le soleil ne se lève, il sortait pour prier. Ce qui veut dire que Jésus a peut-être dormi... Je ne dis pas que c'était toutes les nuits qu'il faisait ça. Mais Jésus, cette nuit-là, a peut-être dormi 4 heures seulement pour pouvoir se lever et prier, intercéder. Et pourtant, quand il s'agissait de son héritage, écoutez bien, quand Jésus est enlevé pour être crucifié, il a dit « Je peux juste dire à des anges et une légion arriverait à l'instant ». Il n'avait pas besoin d'intercéder pour une légion d'anges. Il avait juste à dire une légion et pouf, la légion arrivait. Pourquoi ? Parce que ça faisait partie de la prière de foi, vous comprenez ? Vous voyez un peu l'idée ? Il y avait une prière de foi. Vous avez une prière de foi. Arrêtez de dire, je vous ai dit pendant la prière, ne dites plus des montants quand vous priez pour des finances. Parce que si vous dites un montant, vous le dites une fois et c'est fait. Vous dites, je commande à 100 millions de venir vers moi au nom du Seigneur Jésus. Et c'est fait, vous agissez en conséquence. Par contre, qu'on prie et qu'on fait ce qu'on appelle du minage d'argent spirituel, on est en train de miner. C'est un truc continuel où on prie pour la bénédiction qui marche sur nous et on la manifeste. Vous voyez, c'est un peu différent. Mais j'aimerais que vous compreniez, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons prier. Nous avons une responsabilité de prier, 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 prier. Pourquoi est-ce que Jésus, qui était un homme de foi, la Bible dit qu'il arrivait ? Et quand il s'agissait de manifester la plénitude des bénédictions de l'évangile, elle se manifestait comme ça d'un coup. Aucune raison, aucune question posée. La Bible dit qu'ils amènent un démoniaque, qu'il a juste tensé. Vous savez ce que ça veut dire, tenser ? C'est prendre son doigt et faire comme ça vers la personne, comme si on réprime un petit enfant. Il a juste tensé le démon comme ça. Le démon est sorti d'un coup, il n'a pas intercédé pour que le démon sorte. Pourtant, Jésus était un homme de prière. Pourquoi il priait ? Il priait pour l'humanité, il priait pour les gens, il intercédait. La Bible dit, regardez, j'exhorte donc avant toute chose, maintenant, gardez en tête qu'au verset 4, il va dire qu'il veut que toute personne soit sauvée et parvienne à la connaissance de la vérité. Donc gardez en tête que toute cette indication-là est faite sur l'idée et sur la présupposition juste que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. D'accord ? Donc ne pensez pas qu'en priant, vous allez convaincre Dieu de sauver telle personne. Non, non, mille fois non. Vous allez plutôt permettre à Dieu d'opérer au travers d'un être humain. Vous voyez ? Vous allez autoriser au Seigneur de prendre contrôle de la terre parce que nous sommes maîtres de la terre. Dites, je suis maître de la terre. La Bible dit que la terre appartient au Fils de l'homme. Et donc vous, vous priez avec une intensité pour les âmes. Et gardez ça en tête. J'exhorte donc avant toute chose à ce qu'on fasse des supplications. Des supplications. La supplication, attention, ne consiste pas à supplier dans le sens faire fléchir le Seigneur, comme on a pu interpréter parfois. La supplication signifie une prière intense en émotion, où vous vous tenez devant le Seigneur pour une telle personne. Vous dites, Seigneur, tu vois. Oh Seigneur, c'est à cause de sa méchanceté, c'est à cause de sa pauvreté spirituelle qu'il ne voit pas le besoin de Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus, Père, dans le nom du Seigneur Jésus, oriente les circonstances pour qu'il soit sauvé. Rappelez-vous qu'il a dit, offrez des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. Et rappelez-vous que dans ce contexte, il parle que toute personne, Dieu veut qu'elle soit sauvée. Donc cette supplication ne consiste pas à supplier Dieu pour sauver cette personne. Cette supplication consiste à intercéder d'une manière forte et puissante et intelligente et avec la connaissance de ce que Dieu veut faire. Vous dites, Père, dans le nom du Seigneur Jésus, cette personne est désorientée, oriente-la vers le droit chemin, organise les circonstances qui fait qu'elle soit sauvée. Donne-moi les circonstances, je les crée dans le nom du Seigneur Jésus. Oriente son cœur dans le nom du Seigneur Jésus. Je brise ce voile qui empêche de voir la glorieuse lumière de l'évangile. Et vous priez sur la base d'une connaissance que Dieu veut la sauver. Regardez, verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont haut placés, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Car cela, verset 3, car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur, qui veut, dites qui veut, que tous les hommes, dites tous les hommes. Ce qui veut dire que cette personne qui a dit non à votre prédication, c'est parce que vous devez encore prier pour cette personne. Et notez qu'on peut prier de la même manière pour des chrétiens. Vous connaissez un enfant de Dieu qui marche hors de ce que Dieu a pour lui, vous priez pour lui. Mais c'est ambrage sotokoshata. La prochaine fois que vous voyez qu'une personne n'est pas venue à l'église depuis quelque temps, vous commencez à prier pour elle au nom du Seigneur Jésus. Père, tu vois qu'elle ne réalise pas son besoin d'être formée dans les Écritures. Dans le nom de Jésus, Père, oriente son cœur pour qu'elle puisse venir. Et là, on s'adresse au Père pour qu'il fasse quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'on doit se positionner avec le Père. Nous sommes collaborateurs. Dites, je suis collaborateur. Vous voyez ? Christ a fait de vous son collaborateur. Vous êtes collaborateur du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que vous et le Père, vous vous asseyez et vous discutez de cette âme. Et vous, vous arrivez dans une position où vous savez que Dieu veut qu'elle soit sauvée, plus que vous. Envoie un réveil, Seigneur, est une fausse prédisposition. Parce qu'on peut dire, Seigneur, envoie un réveil. C'est comme si Dieu, en fait, refusait de sauver telle personne parce qu'on n'a pas prié pour qu'il puisse enfin fléchir son cœur et sauver cette personne. Non, Dieu veut qu'on soit sauvé. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous donne cette injonction de prier encore et encore et de faire des supplications. Notez que les supplications sont basées sur le fait que la... Oh, alléluia ! Dites, la grâce m'a été donnée. J'aimerais que vous voyez cette réalité avant, parce que nous allons continuer. Vous savez quoi ? Je vais parler des quatre choses pour cette année, plutôt le dimanche. Amen. Regardez, prenez 2 Corinthiens 1, verset 11. Prenez 10 et 11. Vous voyez, il y a une grâce. Dites, la grâce de Dieu est apparue à tout homme. Allez, on le redit, frères et sœurs, la grâce de Dieu est apparue à tout homme. Donc cette grâce, et la Bible dit qu'elle, cette grâce qui est apparue à tout homme, est la puissance qui peut construire le salut. C'est la puissance qui amène les gens au salut. Regardez, qui nous a délivrés d'une si grande mort et qui nous délivre, en qui nous espérons qu'il nous délivrera aussi encore. Verset 11, regardez bien, regardez bien. Vous aussi coopérant par vos supplications pour nous. Donc là, il parle de nouveau d'une supplication. Comme la Bible dit qu'on doit faire des supplications pour les perdus. Amen. Et pour les chrétiens. Et pour toute personne. Vous voyez un chrétien qui est malade, c'est parce qu'il ne marche pas dans la vérité de Dieu. Vous devez faire une supplication pour lui. Regardez, supplication pour nous, afin que pour le don de grâce qui nous est accordé par le moyen de plusieurs personnes. Donc il sous-entend que la grâce avait été donnée et que cette supplication a fait que cette grâce s'est manifestée. Donc nos supplications sont basées sur la grâce de Dieu. Si on peut juste avoir une autre version, n'importe laquelle, je pense que la LSG doit être disponible de cette même. Donc ça veut dire que la grâce de Dieu est disponible pour ces gens. Ne vous méprenez pas. Quand vous priez pour une personne, sauf si le Saint-Esprit, dans de très rares cas, des personnes sont vouées à l'enfer. Non par leur naissance, mais par leurs actions. Ils ont donné leur vie au diable et sont nés de nouveau, de la même manière que nous naissons de nouveau par l'esprit. Ils sont nés de nouveau par le diable, vous comprenez ? Et donc ces gens-là, Dieu pourrait vous interrompre. C'est très rare, je n'ai jamais eu le cas moi. Mais c'est quelque chose qu'on trouve dans la Bible, que des gens naissent de nouveau dans le diable. Et donc eux, leur esprit est pour toujours, la Bible dit, scellé dans leur conscience contre Dieu. Mais regardez ce que la Bible dit. Verset 11 directement plutôt. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières. Mais on a vu, c'est le terme supplication. Donc c'est une prière intense, vous mettez vos émotions. Afin que la grâce obtenue, notez pas la grâce à obtenir, la grâce obtenue. J'exhorte donc avant toute chose à ce qu'on fasse des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. Quand est-ce que la dernière fois que vous avez fait, Seigneur, je te rends grâce pour cette personne, je te rends grâce pour cette personne dans l'église, je te rends grâce pour telle personne. Mais montrez l'appréciation que vous avez pour les gens, amen. Vous voyez un encouragement, soyez une source d'encouragement pour un frère ou une sœur, amen. Dites, je suis une source d'encouragement. Donc avec tout mon amour. Ce n'est pas en priant 2 minutes pour une personne qu'elle va se convertir. Vous priez avec intensité parce que vous êtes le point de relais entre cette personne et Dieu. Amen. Dites, je suis prospère à tous égards. Alléluia. Je vous laisse préparer vos offrandes. Vous voyez, vous suppliez le Seigneur. Non pas une supplie dans son Seigneur, je te supplie, fais ça pour cette personne. Mais vous êtes l'entre-deux. Pour vivre cette victoire. Demain, quand vous vous réveillez, que nous avons la prière, vous priez avec une telle intensité. Une telle intensité. Vous prévoyez, vous savez quoi, vous n'avez pas l'habitude de prier 1 heure de suite, c'est pas grave. Commencez avec une demi-heure. Commencez avec 15 minutes, 10 minutes. Et vous priez avec une intensité énorme et continuelle et prospère. Et vous allez voir ce que Dieu fera au travers de votre esprit.